Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va continuer aujourd'hui notre étude sur le livre de la Genèse et je vais commencer l'étude du personnage de Jacob, des chapitres qui sont consacrés à la fin du livre de la Genèse à Jacob. Et je traiterai les chapitres 27 à 31 de manière générale, puisqu'ensuite il y aura une autre présentation, toujours sur Jacob, qui sera assurée normalement par Philippe dans les prochaines semaines. Et je trouvais, alors bon, là on voit pas bien, mais j'ai choisi quelques illustrations qu'on trouve, parce que c'est évidemment un personnage qui est curieux, qui est. On va voir plein. Vous connaissez bien l'histoire de Jacob, j'imagine, mais il y a plein de rebondissements, il y a plein de hauts, de bas dans cette vie de Jacob. Et ça a évidemment inspiré un grand nombre d'artistes qui ont représenté des grandes scènes de la vie de Jacob. Alors là, c'est la bénédiction de Jacob au moment où il se fait passer pour Ésaü. J'en ai une autre version par Gustave Doré qui, de la même manière, représente cette bénédiction. Et avec Rebecca qui surveille, parce que peut-être Ésaü va arriver et va rentrer de la chasse. Donc on voit bien aussi ce regard inquiet. Et on reparlera aujourd'hui de ça, de toutes ces fourberies, ces moments où Jacob va tromper, où il fait énormément de choses qui peuvent nous surprendre pour un personnage qui pourtant est cité comme un exemple de foi. On a vu déjà à propos d'Abraham, on l'a vu à propos d'Isaac, dans l'Épître aux Hébreux. Il y a aussi Jacob qui est cité comme un exemple, comme un héros de la foi. Et pourtant, quand on lit sa vie, finalement, c'est une vie qui nous ressemble. Et on se dit, héros de la foi, moi, non, pas vraiment. Et on va voir qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est une vie qui est pleine de complexité, comme certainement la nôtre peut l'être. Et donc peut-être aussi une vie à laquelle on peut se raccrocher comme un exemple, parce qu'il n'a pas eu que des hauts. Et ça, c'est l'honnêteté de la parole aussi, que d'inclure des personnages comme ça, même parmi les patriarches, ils ont une vie complexe, ils ont des moments de plénitude, on a l'impression, avec Dieu, et puis des moments où on a l'impression qu'ils n'ont jamais rencontré Dieu, clairement. Alors, on va parler de ce passage, et ça, c'est ce qu'on va présenter à la fois aujourd'hui et puis dans la prochaine présentation, sur... Jacob, qui est à la fois ce trompeur, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, et qui va devenir Israël, le prince de Dieu. Et ça sera la prochaine fois. Alors, je vous ai mis, alors ça c'est plus pour les diapos que vous aurez à consulter, mais j'ai essayé de résumer les grands épisodes, donc je ne vais pas aller dans les détails de cette vie de Jacob, sinon ça serait aller trop loin déjà dans l'étude, mais nous on va voir le début. Alors, je redirai quelques mots quand même sur... le moment où il a été choisi, mais aussi au moment où il a arraché à Ésaü ce droit d'aînesse, donc au chapitre 25. Et puis, je commence au chapitre 27, c'est d'abord la tromperie, au moment où il trompe Isaac, il se fait passer pour son frère. Ensuite, il fuit, donc il fuit à Charan, et là, il va se marier. Et sur le chemin, on va voir, il a une expérience de haut. Alors, c'est, d'abord... un bas, et puis ensuite il remonte avec cette vision à Bethel, et puis ensuite on va voir qu'il y a des problèmes familiaux qui sont surtout liés à la famille quand il est à Charan, et puis finalement il va remonter vers Canaan, et là il y a ce moment où il va rencontrer Dieu dans une vision, et là c'est de nouveau une grande expérience spirituelle, et puis finalement il y a de nouveau un bas avec ensuite dans sa vie le déshonneur pour sa fille, la vengeance des fils qui crée des problèmes, etc. Et dans les dernières années, on voit que les mêmes thèmes reviennent, des problèmes familiaux, et puis de nouveau des hauts et des bas, même si on voit qu'il finit plutôt sur un haut, et c'est ça dont l'Épître aux Hébreux se souvient, quand il dit « Par la foi, Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et adora appuyé sur le bout de son bâton. » Et ça, c'est ce qu'on retient finalement dans l'Épître aux Hébreux, cette fin de vie, où il est plutôt sur un haut et où on a cette vision sur le Messie qui va venir. Bon, ça, c'est très résumé. Mais ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui, c'est ce moment, cette première période de la vie de Jacob, où on a l'impression qu'il se bat pour obtenir ce que pourtant Dieu lui avait déjà promis. Et il va avoir recours à une attitude qui est, y compris une attitude fourbe, hein, de duplicité, il se fait passer pour quelqu'un d'autre, alors que Dieu lui a promis de lui donner ce qu'il voulait. Et ça nous apprend beaucoup de choses, certainement, sur nos combats à nous aussi, où on peut se demander, ben voilà, puisqu'on sait que Dieu est avec nous, qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche de ne plus avoir peur ? Puisqu'on sait que Dieu est avec nous, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer avec foi sur notre chemin ? Puisqu'on sait que Dieu est avec nous, qu'est-ce qui nous empêche d'aimer pleinement et d'être généreux ? On sait qu'on a ces freins qui existent dans nos vies. Voilà, en tout cas, moi, je sais que il y a ces freins qui existent. Je ne suis pas pleinement généreux, je ne suis pas pleinement confiant, je n'ai pas pleinement foi, je ne vis pas pleinement cette assurance que pourtant Dieu m'a donnée. Et qu'est-ce qui m'empêche de vivre pleinement ma vie, finalement ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette vie qui est encore une vie de combat, alors qu'on a des promesses qui sont même encore plus fortes que celles que Jacob avait reçues ? Alors on va essayer de voir comment Jacob a vécu les choses, puis essayer de tirer quelques enseignements pour nous aujourd'hui. Alors j'ai choisi un plan en trois parties. D'abord, un chemin planifié. On va voir comment Dieu avait annoncé par des promesses ce chemin à Jacob. Un chemin qui est sinueux, et j'en ai dit déjà un petit peu quelque chose, hein, des hauts, des bas. Mais finalement, c'est aussi un chemin où Dieu est présent, un chemin avec Dieu. Alors d'abord, ce chemin planifié. Le chemin est planifié dès le moment où Rebecca, qui attendait cette grossesse de tout son cœur, est enceinte, et où Dieu lui dit « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront en sortant de tes entrailles. Et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Et on voit, dès ce moment de l'annonce à Rebecca, le chemin de la vie de Jacob, il est déjà tracé. C'est par lui que doit passer l'héritage d'Abraham, c'est par lui que doit passer l'héritage d'Isaac. Et donc Dieu annonce dès le départ que Jacob est celui qui a été choisi. Ça se voit dans son nom aussi. Jacob, ça veut dire celui qui tient le talon, parce qu'il tient le talon de son frère, hein, celui qui supplante. Et donc, rien que dans son nom, il porte l'idée que c'est bien lui qui doit avoir la première place, c'est lui qui est l'héritier, et non pas son frère Ésaü. Plus loin, on a ce récit, au chapitre 25, où on présente les deux frères. Et on voit qu'ils ont deux caractères différents. Ésaü, c'est le chasseur, c'est celui qui va vers l'extérieur, et bien souvent, il est loué pour ça. Tandis que Jacob, il est présenté comme un homme simple qui habitait dans les tentes. Un homme simple ou un homme raisonnable, dans certaines traductions. Donc c'est quelqu'un peut-être de moins fougueux, qui a peut-être moins le caractère de l'homme parfait que son père attendait. Peut-être, voilà, parce qu'il reste, à l'intérieur, il prépare à manger, il fait la cuisine, voilà. Et c'est un peu le chouchou de sa maman, hein, c'est ce que dit le texte, puisque c'est le préféré de Rebecca, et Ésaü, c'est le préféré de son père. Alors voilà, peut-être parce qu'il est moins dans la masculinité traditionnelle, je ne sais pas. Il y a peut-être une question comme ça qui se pose. Et en tout cas, voilà, ils sont bien différents, et ce que la Bible nous dit, c'est par contre que Ésaü, lui, il a méprisé son droit d'aînesse. Alors, en regardant un petit peu le droit d'aînesse, je trouvais que c'est surprenant cette histoire de droit d'aînesse, parce que finalement, quand on regarde dans la parole, Abel, c'était pas le premier, Isaac, c'était pas l'aîné non plus, Jacob, on le voit, c'est pas l'aîné, Judas, Joseph, Moïse, David, c'est pas non plus des aînés. Donc le droit d'aînesse, c'est tout à fait relatif quand même dans la Bible. Et pourtant, voilà, là, on n'en vient pas, on dit voilà, il a méprisé son droit d'aînesse. Alors, peut-être que ce droit d'aînesse, c'est pas tellement lié à la place dans la fratrie, mais peut-être surtout à la façon dont chacun se place dans l'histoire et dans la tradition de la famille. Donc, c'est pas tellement la place de premier-né en tant que tel, mais aussi ce qu'on en fait. Et Ésaü, il a méprisé ça dans le sens où il a voulu satisfaire un besoin immédiat. Et il n'a pas vu le long terme, il ne s'est pas du tout placé dans l'histoire d'Abraham, dans l'histoire d'Isaac, qui avait des promesses qui devait aller bien plus loin dans l'éternité, bien plus loin dans l'histoire de l'humanité. Lui, il veut le tout de suite. Il veut, voilà, il veut son plat maintenant, il a faim, et donc c'est ça qui l'intéresse. Et tous ses choix sont liés à la satisfaction de ses besoins, y compris parfois d'ailleurs au détriment de son entourage, notamment quand il va choisir ses femmes. La Bible nous dit quand même qu'il va chercher les femmes chez les Hittites et qu'elles ont été pénibles hein, pour Isaac et Rebecca et que c'est pas un choix judicieux. Est-ce qu'on voit au début du passage que je voulais lire aujourd'hui, hein, étudier à partir du chapitre 27, la question qu'on peut se poser, c'est et alors finalement, est-ce que Jacob a usurpé la bénédiction qu'il obtient d'Isaac ? Alors on va lire la Bible, hein, on va regarder quelques versets, mais voilà, je pourrais pas tout lire parce que c'est quand même assez long et on a beaucoup de chapitres à traiter, donc je lirai que des extraits à certains moments et en particulier là sur cette question de la bénédiction. Alors, ce qui se passe au chapitre 27, c'est qu'Isaac est devenu un petit peu âgé, il est aveugle et il veut faire son testament. Et au chapitre 2 du verset 27, il dit hein, « Tu vois que je suis vieux, je ne sais pas le jour de ma mort ». Alors apparemment, ce que j'ai lu dans certains commentaires, c'est que cette formule, c'est un peu la formule testamentaire. On annonce qu'on veut donner ses dernières volontés, même si on ne va pas mourir tout de suite. Et d'ailleurs, c'est le cas avec Isaac, il ne va pas mourir immédiatement après cette bénédiction. Il y a encore pas mal d'années pour lui. Et par contre, il veut mettre les choses à plat et choisir son héritier. Et donc, vous connaissez l'histoire, il demande à Ésaü, puisque c'est Ésaü le chasseur, d'aller faire ce qu'il sait faire, d'aller chasser le gibier et de lui préparer un plat. Alors, c'est quand même marrant, cette histoire de nourriture, ça revient quand même souvent. Il y a Ésaü qui vend son droit d'aînesse pour un plat. Là, à nouveau, Isaac, il dit ouais, petite fringale. Hein. Il envoie Ésaü chasser et lui préparer le plat qu'apparemment il sait bien faire. Donc, il y a quand même une question d'être guidé par son palais. Hein. Ça semble assez récurrent chez eux, cette satisfaction des besoins et en particulier du besoin de manger. Et alors, Rebecca, elle va voir Jacob et elle lui dit bah, j'ai qu'à le faire à la place d'Ésaü et on va profiter de l'occasion. Et donc, Jacob se déguise, vous connaissez l'histoire, il se met des poils, etc., parce qu'Ésaü est poilu, et il se fait passer pour son frère pour obtenir la bénédiction. Et là, au chapitre 22, pendant tout ce processus, Isaac dit quand même, hein, en tâtant comme ça, Jacob, il dit la voix. C'est bien la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Bon, on dirait qu'il a quand même un petit doute, mais bon, il bénit quand même Jacob, et là, Ésaü revient, la supercherie est dévoilée, mais c'est trop tard. C'est trop tard, Jacob a reçu la bénédiction, on ne peut pas se dédire, et c'est fait. Voilà. Jacob est béni. Alors, est-ce que c'est une usurpation ? Finalement, Jacob, il avait légalement acheté le droit d'aînesse. Donc finalement, qu'Isaac le bénisse, ça ne semble pas, de la part de Jacob, quelque chose d'une tricherie, puisque ça devait arriver. En plus, on sait qu'il avait été choisi. Par contre, Isaac a voulu tromper Jacob, quelque part, en cherchant à bénir Ésaü. Mais quand il a ce doute, moi je me demande si finalement, quand même, chez Isaac, il n'y a pas l'idée qu'au fond, il sait que c'est Jacob. Et que la bénédiction lui revient, et il le fait quand même, il cherche pas encore à... Je me suis dit, est-ce que peut-être, quelque part, Isaac ne savait pas ? Bon, la Bible n'en parle pas, il y a quand même ce plan, il voulait peut-être donner à Ésaü, mais au final, il bénit quand même Jacob. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, le caractère de chacun a joué dans le sens de la réalisation de la prophétie, de l'annonce qui avait été faite à Rebecca. Et c'est étonnant de voir comment, malgré toutes ces tentatives de tromperie, etc., finalement, Dieu arrive à faire advenir ce qui devait advenir. Et Jacob et Ésaü sont exactement là où ils devaient être au final. Alors, j'ai noté ici, un homme avait deux fils, parce que c'est toujours amusant, dans la parole, il y a beaucoup d'histoires comme ça, avec un père qui a deux garçons. Là, c'est bon, on l'a déjà vu avec Abel et Caïn. Là, c'est une autre histoire avec deux frères. Et puis, on sait que dans l'Évangile, voilà, Jésus utilise à nouveau ce thème. Dans Luc 15, par exemple, hein, un homme avait deux fils, et puis on a cette parabole des deux frères, avec le frère aîné qui est jaloux, qui se sent lésé, comme un peu peut-être Ésaü, qui ne change finalement pas d'attitude. Et le deuxième frère, qui lui se rend compte qu'il avait besoin de la bénédiction du Père, qui retourne chez lui, dans l'Évangile, hein, qui finalement reçoit l'amour compréhensif de son Père. Et je me dis, peut-être que là, voilà, on peut réfléchir plus largement à ces histoires avec deux fils, en se disant, mais voilà, si finalement on a grandi dans une famille chrétienne, et peut-être c'est le cas chez certains, alors là les plus jeunes sont partis, mais peut-être que certains sont nés, ont grandi dans des familles chrétiennes, ont reçu cet héritage eux aussi, et ne savent pas encore quoi faire de cet héritage. Et ben voilà, ces histoires de deux frères nous montrent que parfois on peut être très proche et passer complètement à côté des bénédictions qui pourtant sont très près. C'est peut-être un appel à certains qui n'ont peut-être pas encore fait ce choix, alors peut-être pas dans cette salle, peut-être chez les plus jeunes, mais que voilà, finalement on reçoit un héritage et ne passons pas à côté quand il est si proche et ne soyons pas le frère qui finalement ne choisit pas l'héritage. Prenons possession de cet héritage. Alors, la bénédiction que Jacob reçoit, elle est paradoxale. On va lire les chapitres 28 et 29. Que Dieu te donne de la rosée des cieux, de la graisse de la terre, et une abondance de froment et de moût. Que des peuples te servent et que des peuplades se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudit et béni qui te bénit. Alors, je dis c'est paradoxal parce que quand on regarde la suite de l'histoire, finalement, Jacob, plutôt que d'être dans l'abondance, on sait qu'il a, alors, à certaines périodes de sa vie, il a eu faim et il a même dû acheter du blé en Égypte. On dit que des peuples vont se prosterner devant lui. Alors, c'est vrai dans certaines parties de sa vie, mais on sait aussi qu'il a dû acheter et se soumettre du coup avec sa famille à l'autorité de Pharaon. Quand on dit qu'il va être le maître, finalement c'est lui qui commence par aller servir Laban pendant de longues années, et puis il a dû se prosterner à un moment devant son frère. Hein. On dit le maître de tes frères, mais on sait que quand il revient voir Ésaü, c'est plutôt Jacob qui se soumet à Ésaü comme devant un maître parce qu'il a peur de la réaction de son frère. Et donc, même s'il y a d'autres moments, il semblerait que la bénédiction. Là, se réalise, il y a quand même des moments de bas où on a l'impression, et certainement Jacob devait se dire, mais moi, je ne vois pas ça. Il y a des hauts et des bas où cette bénédiction n'a pas toujours été vraie. Et plus loin, il y a la suite de la bénédiction au chapitre 28, quand Jacob s'en va pour Charan, Isaac va compléter la bénédiction. Il l'envoie et il dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Te fasse fructifier, te multiplie, afin que tu deviennes une assemblée de peuples, et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta semence avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, lequel Dieu a donné à Abraham. Et alors là, je trouve ça assez magnifique de voir à quel point il se place exactement dans les mêmes bénédictions que celles qu'on avait vues pour Abraham, à la fois une descendance et un pays. Et c'est dit explicitement, hein, c'est vraiment la bénédiction d'Abraham qui est. Renouvelé par Isaac pour Jacob. Et ce qu'on sait, c'est qu'Abraham, quand il est mort, les promesses d'avoir le pays, d'avoir une descendance nombreuse comme les étoiles des cieux, tout ça n'a pas été réalisé à la fin de la vie d'Abraham. Et on avait vu il y a quelques semaines hein, comment Abraham s'est placé dans une vision pour l'éternité, mais que ce n'était pas du tout quelque chose qu'il a vu de son vivant. Et la réalisation de la même manière pour Jacob, hein, elle est là aussi à venir lorsqu'il achève sa vie. C'est exactement la même histoire que pour Abraham. Il va pas voir exactement tout ça. Il ne sera plus dans son pays à la fin de sa vie, puisqu'il sera en Égypte. Et la descendance nombreuse, il commencera à l'apercevoir. Mais Bon, c'est pas les myriades et les myriades encore. Hein. On est, voilà. Donc, il se place exactement comme un nouvel Abraham. Il reproduit le schéma d'Abraham. Et ça, ça me faisait réfléchir sur la façon dont on peut ou on doit, ou c'est possible d'accueillir la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, il me semble, finalement, elle n'est pas du coup pour forcément que toutes nos espérances, même les plus légitimes, hein, soient comblées, et en tout cas pas comblées immédiatement. On appartient à une histoire, c'est l'histoire du peuple de Dieu. Et il y a beaucoup de bénédictions qui concernent Israël, il y a aussi des bénédictions qui concernent l'Église, et puis il y a des bénédictions qui concernent nos vies. Et il faut faire attention, je pense, à voir qu'est-ce qui rend finalement sur le long terme, et qu'est-ce qui est plutôt sur un court ou un moyen terme, et comment on se place par rapport à cette espérance qui est celle finalement de... Parfois on prie hein, que ton règne vienne, puis on se dit, mais pourquoi Dieu ne répond pas par exemple à cette prière immédiatement, etc. Il y a une espérance qui est éternelle. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas certaines choses maintenant, pas parce qu'on ne les voit pas pendant notre vie, qu'elles ne vont pas advenir. Et cette espérance, finalement, elle reste quand même là. Et Dieu la veut parce qu'elle est un moteur aussi pour nous. C'est un moteur qui nous permet de persévérer dans la fidélité, parce qu'on sait qu'un jour, ça va advenir. C'est le plan de Dieu. Et nous, on est à un moment du déroulement de ce plan. Et le problème, on a vu avec Ésaü, c'est que lui, il ne voyait pas ce plan éternel. Quand il dit, « Voici, je m'en vais mourir, et de quoi me sert le droit d'aînesse ?» Lui, pour lui, il n'y a pas de plan plus loin que aller manger tout de suite. Et ça m'a fait penser, moi je pense que quand il dit ça, c'est exactement ce que dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. Quand l'apôtre Paul dit « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Finalement, à quoi bon si on se voit comme devant mourir demain ? S'il n'y a pas d'espérance, s'il n'y a pas de résurrection, si on n'a pas le cœur de notre foi chrétienne, si ça n'existe pas, ou si on n'en est pas convaincu, finalement, on n'a pas de raison de faire tout ce qu'on fait, on n'a pas de raison, il n'y a pas de moteur dans nos vies. Et finalement, la bénédiction, elle ne sert à rien à celui qui se dévalorise et à celui qui dévalorise sa vie, parce qu'elle n'aurait pas de sens si tout ça n'est dû qu'au hasard, si voilà, on est nihiliste, hein, c'est-à-dire qu'après la mort, il n'y a plus rien. À quoi bon vivre ? À quoi bon agir avec moralité ? Ça semble, en tout cas pour moi, assez contestable. Alors je sais qu'il y a des gens très bien qui vivent avec une très grande morale, mais leur moteur est difficile à comprendre parce que, bah oui, finalement, tout s'arrête. Alors bon, c'est difficile de renouveler l'espérance et de renouveler le moteur de nos vies. Mais nous, précisément parce que nous avons une espérance éternelle, alors apprenons à valoriser ce que nous avons reçu et essayons de nous entretenir dans cette espérance éternelle qui doit nous réjouir et qui est finalement le moteur de notre vie, comme ça a pu l'être pour Abraham, pour Isaac, et là on le voit pour Jacob, de la façon dont il a été ensuite salué comme un exemple de foi. Un exemple de foi, et pourtant, je disais, son chemin a été sinueux, et j'ai déjà présenté un peu ça, hein, dit ça. On sait que voilà, ils ont comploté avec sa mère pour arracher ce qui pourtant était promis, et la duplicité, elle continue. Et pourtant, il y a un prix, hein, à cette duplicité de la part de Jacob. Quand Jacob reçoit la bénédiction, première chose qu'il doit faire, c'est aller se cacher. Parce qu'il y a la colère d'Ésaü qui risque d'arriver. Et il va se cacher, non pas un petit peu, il va se cacher pendant 20 ans. Et on ne sait même pas s'il a revu Rebecca, qui pourtant voilà, était sa maman chérie, et lui, c'était le fils chéri de Rebecca. Et il doit se cacher, et donc il y a un prix à cette duplicité, à ce complot qu'ils ont fait tous les deux, c'est que peut-être ils vont pas se revoir. Et puis, du côté de... Alors c'est une représentation de Rachel et Léa. On voit que, finalement, ce qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. Alors, il est parti dans une ambiance familiale qui est assez terrible, Et puis, il va aller vivre chez Laban, et là, de nouveau, ambiance familiale loin d'être idéale. Et tout ce qu'il a fait de trompeur, Jacob, qui était caractérisé comme trompeur, finalement, ça va se retourner contre lui, et il va récolter exactement le fruit de ce qu'il a semé, dans le sens où on va comploter finalement contre lui. Donc, vous connaissez l'histoire, hein. Donc Jacob, il arrive chez Laban, il voit les bergers, alors son premier truc c'est d'essayer de les critiquer, il dit mais qu'est-ce qu'ils font là à cette heure-là, c'est pas vraiment l'heure d'aller les faire boire. Bon. Finalement, on comprend que c'est parce qu'on attend Rebecca, Rebecca arrive, il tombe amoureux, et là, Rachel, excuse-moi, il rencontre Rachel, il tombe amoureux et il veut épouser Rachel. Comme il n'a rien, puisqu'il est parti sans rien, alors contrairement à Isaac qui était parti avec une petite fortune, en tout cas le serviteur pour aller chercher justement Rebecca, là il part pour aller chercher Rachel, mais il est parti sans rien. Il n'a que son bâton et donc il propose de travailler 7 ans. 7 ans de patience, donc un vrai amour hein, quand même pour Rachel. Et qu'est-ce qui se passe ? La nuit de noces arrive et là, on lui joue exactement le tour qu'il a joué, c'est-à-dire que quand il se réveille, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Et là, le trompeur qui s'est fait passer pour son frère en mettant les poils, etc., et ben là, il se réveille et on lui a joué le même tour. C'est pas la sœur qu'il pensait, c'est l'autre. C'est ironique quand même de voir qu'on lui joue exactement le même tour. Et Laban, quand il lui explique, il lui dit, bah oui, mais l'aînée, elle a un droit particulier quand même. Et là, bon, quand même, c'est assez amusant de voir qu'on lui remet les mêmes thèmes que ceux qu'il a laissés quand il est parti de chez son père, quand il a fui Ésaü. Ben finalement, on lui resserre voilà, la tromperie, le droit d'aînesse, etc. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé et bon, ben, il va falloir quand même le régler. Et donc, il reste 7 ans de plus en ayant épousé Léa. Il reste 7 ans de plus et il va pouvoir épouser Rachel. Alors, pour autant, c'est pas la fin de sa conduite impie parce que on voit que quand il est chez Laban... Finalement, Jacob, il se comporte exactement comme s'il n'avait jamais eu d'expérience spirituelle particulière. On verra dans un instant l'expérience du chapitre 28, mais on dirait que pour lui, il n'y a pas vraiment de Dieu dans la façon dont il se comporte chez Laban. Laban, lui, c'est quelqu'un qui a des troupeaux, il veut s'enrichir. C'est quelqu'un qui est aussi plein de convoitises. D'ailleurs, vers la fin du séjour chez Laban, on apprend que Laban a mangé l'argent de ses filles au chapitre 31. Et ça, encore une fois, une histoire de manger quelque chose. Mais cette fois-ci, on mange l'argent. Il a dilapidé l'héritage de ses filles. C'est quelqu'un qui est plein de cette convoitise. Mais Jacob, finalement, se met à son école. Et il continue à se comporter comme s'il devait arracher à Dieu ce que pourtant Dieu avait prévu de lui donner, et il copie Laban en se comportant comme lui, en adoptant ses principes, alors que Laban, lui, il n'a pas le Seigneur, il n'a pas eu cette révélation que Dieu a donnée à Jacob. Et par exemple, l'exemple auquel je pensais pour illustrer ça, c'est la façon dont il se comporte pour multiplier les troupeaux. Vous savez, il y a cette histoire de mettre de côté les brebis qui sont marquetées, qui sont achetées. Bon, Dieu aurait pu donner un troupeau nombreux à Jacob. Ça faisait partie des bénédictions. Et Jacob, certainement, si c'était confié en Dieu, je pense, il n'y a pas de raison de penser que Jacob n'aurait pas reçu les bénédictions de Dieu, puisque ça faisait partie de ce qui avait été donné. Et pourtant, ce qu'il utilise, vous savez, c'est de leur montrer un certain type de branchage pour qu'ils se multiplient, etc. Et on dirait qu'il se base sur des fausses croyances, ou en tout cas des croyances un peu étonnantes qui sont certainement liées à une sorte de paganisme où on fait renifler des choses aux brebis, on les met dans certaines conditions pour qu'elles se reproduisent de certaines façons, qu'elles soient en plus en chaleur plus fréquemment, en fait. Hein. Et c'est très étonnant que l'objectif soit bon, d'avoir un troupeau nombreux, et certainement Dieu l'aurait donné, mais le moyen n'est pas un moyen spirituel, et en tout cas pas un moyen de foi. C'est un moyen complètement humain et même païen. Et ça montre que Jacob n'a pas encore appris. Et l'épisode chez Laban se finit par une ultime tromperie, hein, puisque Jacob profite du fait que Laban est parti pour faire tondre le troupeau. Et là, verset 20 du chapitre 31, on nous dit, hein, Jacob trompa Laban, l'araméen, car il ne lui apprit pas qu'il s'enfuyait. Et donc pendant que Laban est parti faire tondre le troupeau, c'est le moment que Jacob choisit pour fuir. Et donc c'est une histoire de fuite, hein, tout le temps. Il s'en va sans le dire. Et évidemment, Laban ne va pas accepter ça. Et donc il se met à sa poursuite. Et ce qu'on comprend, c'est que le but de Laban, c'est d'arrêter Jacob, mais certainement aussi de le tuer. Et Dieu l'arrête. Et quand finalement Laban rejoint Jacob, il lui dit, j'ai en ma main le pouvoir de vous faire du mal, donc certainement ce qu'il avait pensé faire au départ, mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit passée, disant, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Et donc finalement, Dieu arrête la main de Laban, et là, ce que je trouve incroyable, c'est qu'au lieu d'avoir un moment tout de suite spirituel, où Jacob se remercierait le Seigneur de ce... En fait, on dirait que Jacob va profiter de ça. Il profite de ça et il se présente encore une fois comme la victime de Laban cette fois-ci, parce qu'il se sait protégé par Dieu, alors il va essayer de pousser son avantage. Et là encore, il négocie l'accord de paix qui va être scellé avec Laban. Et là, il utilise le nom de Dieu, hein. Il dit, si le Dieu de mon père... C'est au verset 42, hein, du chapitre 31. « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et la frayeur d'Isaac n'eût été pour moi, certes, tu m'eusses maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu mon affliction et le labeur de mes mains, et il t'a repris la nuit passée. » Et donc il dit, voilà, j'ai tellement souffert chez toi. Les troupeaux sont hyper nombreux. Enfin, il s'est marié avec les deux filles. Ouais. Alors certainement, la situation n'était peut-être pas idéale puisqu'il a dû fuir et qu'il y avait une complication dans la vie avec Laban. Et c'est pour ça qu'il devait faire chemin à part. Mais n'empêche, ce n'est pas une vie d'esclavage telle que la vie des Hébreux en Égypte ensuite. C'est une vie qui a été quand même bénie. Et là, dans la négociation, on dirait que parce qu'il a compris que Dieu était avec lui, alors il pousse la négociation pour sceller l'accord de paix avec Laban. Alors, bon, cet accord de paix est quand même signé dans un lieu qui s'appelle Mitzpah, qui veut dire la tour de garde. Alors, je ne sais plus si je l'avais noté, ça. Voilà. Et donc, le lieu, la tour de garde, parce qu'on nous dit, hein, dans la parole, parce que l'Éternel veille entre moi et toi quand nous serons cachés l'un à l'autre. Voilà. Donc, il y a cette tour de garde, ce moment où, cet endroit où le traité de paix a été signé. Mais, voilà, encore une fois, Jacob s'est appuyé sur son intelligence, il s'est appuyé sur sa ruse. Il a été trompé, mais il a été aussi trompeur. Et on dirait que dans tout cet épisode chez Laban, tout est très terre-à-terre. Et la mention de Dieu ici, moi, elle me semble très superficielle quand même. C'est vraiment... parce que finalement, Laban lui en a parlé, il dit « Ah oui, c'est vrai, Dieu est avec moi. » Mais ce n'est pas quelque chose qu'il a cultivé, qui a vraiment été fort dans tout cet épisode chez Laban. Et donc finalement, Jacob, c'est pas, il me semble, vraiment un modèle dans ce récit-là, en tout cas. C'est pas un modèle, et pourtant, j'ai envie de dire, c'est un peu mon modèle, parce qu'il est, il nous ressemble. Et c'est un épisode qui nous parle quand même très fort de la grâce de Dieu. Parce que malgré le péché, malgré la ruse, malgré la tromperie, qu'est-ce que le livre des Nombres retient ? Il n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob, ni n'a vu d'injustice en Israël. Pas d'iniquité en Jacob. Alors qu'on a l'impression qu'il ne fait que ça. Il ne fait que te tromper. Mais non, ce que Dieu voit, c'est Jacob lavé, en quelque sorte. Parce qu'il l'a choisi, et nous, c'est pareil. Il nous a choisi. Et Dieu ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé de voir Jacob agir comme il a agi. Et donc, ne nous décourageons pas non plus Parce que nous connaissons la grâce de Dieu. Nous connaissons la valeur, comme on l'a rappelé ce matin, du sang de Christ qui nous lave et qui fait que Dieu ne voit plus nos péchés, qui les a coulés au fond de la mer. Vous connaissez cette image, hein. Nos comportements, nos échecs, nos péchés, tout ça, ça ne peut pas nous inciter à penser que nous ne sommes pas réellement des enfants de Dieu, parce que Dieu ne voit pas notre iniquité, il ne voit pas notre injustice, il ne la voit plus, parce que tout ça a été lavé par le sang de Jésus-Christ. Alors, je pense que ça nous incite aussi à ne pas chercher à vouloir, par nos propres efforts, comme a pu le faire Jacob, essayer d'obtenir quelque chose de Dieu en forçant Dieu. Ça ne doit pas nous inciter non plus à penser qu'on doit se forcer sur notre propre nature à nous transformer, parce que ce n'est pas nous qui nous transformons, c'est l'Esprit-Saint qui nous transforme. C'est Jésus-Christ qui, parce qu'il est mort et ressuscité, alors nous permet d'avoir une vie avec lui, et l'Esprit-Saint nous transforme. Mais ce n'est pas à nous de nous courber et nous transformer par la force. On n'y arrivera pas, ça c'est du légalisme. Et ça, on ne peut pas le faire. Et si on se rend compte qu'on a péché, on ne peut pas se contraindre à ne plus pécher. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et on ne peut pas se contraindre non plus, on ne devrait pas se contraindre à abandonner le chemin non plus. Parce que, voilà, on se rend compte qu'on a fait des choses, et parfois, voilà, dans notre vie, en tout cas, on fait le bilan de sa journée, on fait le bilan de sa semaine, on se dit, mais j'ai pas été à la hauteur, là. Et bien, ce n'est pas un encouragement non plus à abandonner le chemin, parce que Dieu, lui, est là. Comme il a été pour Jacob, qui pourtant a vécu de nombreuses reprises, comme s'il ne connaissait pas le Seigneur. Et Dieu a continué à être présent. Et donc, ce qui est vrai pour Jacob, ça l'est aussi pour nous. Donc, gardons ça en tête, hein. Dieu nous voit, Dieu nous aime, et il ne voit plus notre iniquité, il ne voit plus notre injustice, pas plus qu'il ne l'a vu en Jacob, qui pourtant, comme on l'a vu, n'a pas été exemplaire au sens humain. Et c'est pour ça que je disais, son chemin, il a beau être tortueux, il a beau être sinueux, ça reste un chemin avec Dieu. Et là, on va regarder plus spécifiquement cette histoire de fuite et ce moment où Dieu, quand même, se révèle à Jacob particulièrement. Alors, je vais regarder le chapitre 28 en particulier, mais en redisant d'abord à quel point cette histoire, c'est une histoire de fuite. Parce que, on l'a vu, hein, donc, là on vient, quand on finit le chapitre, il y a le dernier passage du bout qu'on regarde aujourd'hui, hein, chapitre 31, on a vu Jacob qui fuit Laban, mais avant ça, il avait déjà fui Canaan. Il est parti de chez Isaac, et il est parti parce qu'il y avait Ésaü aussi, et il est parti sans rien, il est parti pauvre, avec seulement son bâton. On apprend au chapitre 32, hein, il dit « J'ai passé ce Jourdain avec mon bâton ». C'est la seule chose qu'il avait, il est parti comme un pauvre. Et au moment où il est fatigué, quand il fuit, au chapitre 28, il se repose sur un oreiller qui est en fait une pierre. Il a rien, il n'a même pas mis son vêtement comme oreiller, il n'a qu'un caillou. C'est la seule chose qu'il a, un bâton, un caillou. Et ce qui montre la dureté de sa condition, hein, au moment où il part. Et là, au chapitre 28, on a cette vision de l'échelle. Alors ça, c'est encore Gustave Doré, la vision de l'échelle de Jacob. On va lire ce passage au chapitre 28, verset 10. Et je lirai jusqu'au verset 15. Jacob sortit de Beersheba, s'en alla à Charan. Et il se rencontra en un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit des pierres du lieu, et s'en fit un chevet, et se coucha en ce lieu-là. Et il songea. Et voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet, touché aux cieux, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici l'Éternel se tenait sur elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, et à ta semence, et ta semence sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'occident, et à l'orient, et au nord, et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. Et voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit. Et Jacob, on va lire juste le verset suivant. Et Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Et il eut peur et dit que ce lieu est terrible, etc. On va juste regarder pour l'instant cette vision de l'échelle. Alors, c'est sur la cathédrale de Bath. On voit, c'est assez amusant, parce qu'on voit l'échelle, puis on voit les anges qui montent, puis il y en a fait un qui descend, puis du coup, ils ont mis la tête en bas pour descendre. Bon, je trouve ça amusant de voir la façon dont se représentent les choses. Mais qu'est-ce que... Voilà, il y a cette vision. Et dans cette vision, on entend bien Dieu qui dit « Je ferai ci, je ferai ça, je te donnerai, je... » Et c'est vraiment quelque chose. « Je suis l'Éternel, je te donnerai cette terre, etc. » On voit bien que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui promet et qui agit. Il insiste bien. C'est pas si tu fais ça, je ferai ça. C'est une promesse et c'est Dieu qui promet, c'est Dieu qui va faire. Et il utilise exactement voilà, la même promesse que pour Abraham, on l'a vu. Hein, promesse d'une descendance, promesse de la terre. Et il promet d'accompagner Jacob en lui disant, voilà, je serai avec toi et je te ferai aller jusqu'ici. Et peut-être deux leçons sur la façon dont ça s'est passé pour Jacob. En réfléchissant à cet épisode, Jacob, il est parti sans rien. Et c'est au moment où il n'a plus rien du tout, au moment où il est couché sur un caillou, qu'il entend la promesse de l'Éternel. Mais avant ça, comme pour Abraham, il s'était mis en marche. Et c'est au moment où vous vous rappelez, hein, quand Abraham est parti, que l'Éternel lui fait voir tout un tas de choses. Il lui montre le ciel, etc. Et peut-être que ça nous dit aussi que bah, notre vie de foi, c'est une vie où on doit se mettre en marche, on doit avancer. Et c'est quand on avance que Dieu vient à notre rencontre et nous montre des choses particulières. Et on ne peut pas attendre en étant assis quelque part, parce que la vie de foi, en tout cas tant qu'on est ici, hein, c'est de marcher, c'est d'avancer avec Dieu. Et d'ailleurs, je vous avais dit, je pense quand on a parlé d'Abraham, il est passé du destin à vraiment une marche avec Dieu. Et le destin, c'était un peu, vous vous rappelez, on avait dit, c'est attendre les choses quand qu'elles viennent, et puis un peu fataliste. Et le mot destin n'apparaît pas dans la parole. Par contre, quand on parle de la vie de quelqu'un, on parle d'une marche tout le temps. Une marche, un chemin, etc. C'est ça le mot qui est utilisé toujours pour parler d'une vie. Et je trouve que c'est assez frappant parce qu'on n'est pas là pour être fataliste et Dieu ne prépare pas des choses et pour nous les faire advenir sans qu'on y ait part et sans qu'on y participe aussi. C'est vraiment une vie avec Dieu. Et là, voilà, il s'est mis en marche et Dieu lui apparaît et lui parle à ce moment-là. Donc mettons-nous aussi en marche, et je me le dis à moi-même aussi. Essayons voilà, d'avancer plus avec Dieu pour pouvoir goûter ses promesses et ses bénédictions. Et puis, voilà, quand on en a le plus besoin... Dieu nous parle, et ça c'est aussi un encouragement pour ceux qui ont particulièrement besoin de Dieu en ce moment, peut-être. Voilà, peut-être que ça c'est pas écouté. Il est là au moment où on en a le plus besoin. Et ça c'est une assurance hein, que Dieu se tient présent, en particulier quand c'est dur et quand on est dans ces moments où, voilà, comme Jacob, on n'a plus rien. Et alors Jacob, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il met des mots sur ce qu'il a vu. Jacob se réveilla de son sommeil, il dit « Certainement l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Voilà, il se réveille et il essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et là, il a un peu peur du lieu. Il dit que ce lieu est terrible, ce n'est autre chose que la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Oui. Il y a cet étonnement face à ce qu'il a vu, à cette vision de Dieu. Et on sait que c'est quelque chose qui revient souvent quand on a vu Dieu dans la parole. Hein. Il y a Marie devant l'ange, quand il y a l'Annonciation. Il y a Pierre, quand il y a la pêche miraculeuse, il comprend à qui il a affaire. Les disciples, quand il y a la transfiguration, pareil. Qu'est-ce que c'est que ce lieu? Et puis les femmes, hein, quand elles arrivent au moment de la résurrection et qu'elles voient le tombeau vide, et qu'il y a l'ange qui leur parle, ou Marie-Madeleine qui est avec le Seigneur, et qui voilà, comprend. Et il y a toujours un peu ce moment de recul de qu'est-ce qui se passe. Mais ce n'est pas une angoisse terrifiante, il me semble. C'est plus une découverte de la petitesse. Jacob comprend qu'il est petit devant Dieu. Et cet événement le dépasse complètement. Et ensuite, il prend une pierre et il en fait un mémorial. Donc il dresse une pierre. C'est au verset 18. Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet, la dressa en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Donc il verse l'huile. L'huile, c'est la bénédiction. Et donc il fait de ce lieu un lieu sacré en quelque sorte, puisqu'il bénit la pierre et il veut que cette pierre symbolise l'endroit, et il veut se souvenir de ce qui s'est passé à cet endroit. Et c'est quelque chose qu'on retrouve hein, parfois, par exemple quand avec Josué, le peuple traverse le Jourdain, ils prennent des pierres du Jourdain pour se souvenir de ce moment et d'avoir traversé le Jourdain. Et on va voir dans un instant ce que je propose. Et puis, je vais expliquer dans un instant. Et après, il appelle ce lieu la maison de Dieu. Il appela le nom de ce lieu-là Bethel, et ça veut dire la maison de Dieu. Et il dit, c'est au verset 19, hein, il appelle Bethel. Alors, pourquoi j'ai mis cette partition? En fait, c'est la partition en anglais, avec les paroles en anglais, je veux dire, de « Mon Dieu plus près de toi ». Et en fait, dans la version anglaise, c'est toute l'histoire de Jacob à Bethel. Donc, je l'ai mis là pour qu'on s'en souvienne, mais ça raconte tout ce parcours. Et dans une des strophes, hein, il y a bien que on utilise les pierres de tristesse, hein, et on en fait des pierres de Bethel, en fait. Et c'est la façon dont le poète en anglais, enfin, je crois que c'est une femme d'ailleurs, une poétesse, non, je ne sais plus, qui avait écrit ces paroles et qui veut transformer cette angoisse, cette peur, cette tristesse en un lieu où elle se souvient de la présence de Dieu. Et en fait, elle utilise cette allusion à Bethel dans le poème original. Et je crois que voilà, il veut se souvenir de cet endroit. Et il fait un vœu. Il fait un vœu, et alors le vœu est assez particulier. Au verset 20, Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche, et qu'il me donne du pain à manger et un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. » Très étonnant. Dieu vient de se révéler. Dieu vient lui parler, vient lui faire des tas de promesses, et là lui dit, oh, si Dieu fait ça, alors il sera mon Dieu. Alors, apparemment, dans d'autres traductions, on dit quand Dieu aura fait ça, et pas si Dieu a fait ça. Alors une petite nuance, c'est vrai, on pourrait dire quand Dieu aura fait ça, on pourrait dire bah, finalement il y a une dimension de foi un peu supplémentaire. On dit bon, finalement il croit que Dieu va le faire, puis du coup il attend que ça soit fait. Mais n'empêche que voilà, il y a quand même, il attend que ça soit fait. Et là, c'est si Dieu le fait, alors ça sera mon Dieu. Ce qu'il veut voir, c'est que Dieu a effectivement tenu ses promesses. Et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, il a eu cette expérience merveilleuse qui est un haut dans sa vie. Et pourtant, voilà, il doute. Il n'est pas convaincu de la grâce de Dieu. Et il veut voir pour croire. Comme Thomas plus tard. Un peu a dit, si je mets mes mains, si je... Ils veulent voir pour croire tous les deux. Et Thomas, on sait que le Seigneur a répondu, il est venu montrer. Et Jacob, de la même... Enfin, déjà, Dieu lui a montré. Dieu a fait ce qu'il avait promis. Et ça nous montre la grâce de Dieu. Encore une fois, Dieu est patient. Leur permet à l'un comme à l'autre, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, de voir et de pouvoir croire. Mais on peut entendre quand même le rappel hein, que le Seigneur dit à Thomas, ou après l'épisode avec Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Il y a quand même voilà, cette dimension-là. On a l'impression quand même que Jacob voilà, manque un petit peu de foi, pas qu'un peu, mais ça le transforme. Ça le transforme. On a vu qu'ensuite, chez Laban, il ne va pas pleinement vivre cette foi, mais il y a d'autres épisodes. Il y a Péniel ensuite, où il va lutter avec l'ange et Dieu va encore... Il va y avoir d'autres hauts dans sa vie qui vont confirmer, qui vont lui permettre de renforcer cette foi. Et quand même, à partir de ce moment-là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ça devient malgré tout quand même le Dieu de Jacob. Et quand Dieu lui reparle au chapitre 31, il lui dit « Je suis le Dieu de Bethel, Il dit, rappelle-toi, Bethel, où tu oignis une stèle, où tu me fis un vœu. Il lui rappelle cet épisode. Et donc, ça a quand même changé quelque chose. Ce n'est pas juste anecdotique. Dieu va se servir de cet épisode, de cet endroit, pour voilà, faire progresser Jacob. Et de la même manière, quand le Seigneur Jésus fait allusion à cet épisode, dans l'évangile selon Jean, le Seigneur Jésus dit en vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Il fait allusion à cet épisode de Bethel, et il le dit juste après l'appel de Nathanaël. Et vous vous rappelez, hein, il dit à Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier. Et Nathanaël, ça finit de le convaincre qu'il a bien affaire au Fils de Dieu. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que pour Nathanaël, son Bethel, c'était ce moment du figuier. Et le Seigneur a pu l'utiliser pour lui rappeler, lui dire, tu te souviens ce qu'on a vécu là-bas sous le figuier? Rappelle-toi cet épisode. Voilà, il y a eu ce moment particulier de proximité, de communion avec Dieu. Et là, Dieu l'utilise aussi. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. On a eu cette expérience, même si tu n'as pas vécu ensuite. Voilà, il y a eu ça. Ça a été un moment marquant dans la vie de Jacob, comme il y a eu d'autres épisodes dans la vie de Nathanaël. Et j'aimerais qu'on s'encourage peut-être à avoir ce genre de Bethel ou à se souvenir de ce qui a été Bethel pour nous. Je crois que dans notre vie, on a besoin de se souvenir, souvent, des moments de haut, parce qu'on a nos moments de bas aussi. Et je pense que quelque chose que moi je ne fais pas suffisamment, c'est peut-être de noter un moment particulier ou d'avoir un souvenir comme... alors lui, c'était une stèle qui était restée dans le paysage, mais cette pierre, alors, ce n'est pas pour attacher de l'importance à l'objet, mais pour avoir une manière de se souvenir aussi des moments de haut, pour que quand on est dans un moment de bas, eh ben, on se souvienne de Bethel. Donc chacun pourra avoir sa manière de faire, soit ça peut être un carnet où on note des prières et des réponses à des prières, ça peut être un souvenir d'un endroit, souvenir pris dans le paysage, une photo même, hein, mais certains vont peut-être ramasser une feuille, peut-être avoir d'autres façons de faire, qui vont voilà, permettre de se souvenir d'un moment particulier vécu avec Dieu, et qui peuvent nous aider plus tard, je crois, dans nos vies. Et je crois que je vais essayer de le faire plus, et j'aimerais vous encourager à le faire aussi, parce que je pense que ça peut nous aider dans une vie qui, malgré tout, est assez longue et qui est faite de haut et de bas, comme celle de Jacob et comme celle de tout être humain, je crois. Alors, l'échelle de Jacob, mais Bethel, il dit c'est la maison de Dieu. Alors, aussi, est-ce que c'est un endroit particulier? Alors, il y a ces lieux qu'on aura vécu chacun. Et puis finalement, il y a aussi tout lieu où il y a la parole de Dieu qui est prêchée. Cette parole qui fait le lien entre le ciel, là où ça se passe, hein, l'ouverture du ciel avec cette vision du ciel ouvert, les anges, etc., le monde céleste, et puis l'échelle qui va jusqu'à la terre. Et on sait que le Seigneur Jésus est venu sur la terre et c'était la parole incarnée qui est venue nous révéler Dieu. Et finalement, Bethel, ça nous parle de ce lien qui a été fait et ce lien qu'on rappelle tous les dimanches entre le ciel et la terre. C'est le lien qu'on a proclamé à notre baptême. C'est le lien aussi qu'on a proclamé en prenant la scène encore une fois aujourd'hui, qu'on proclame tous les dimanches. Et puis, Bethel, c'est aussi l'endroit où, finalement, toujours on est, puisque la parole est très près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, pour la pratiquer. On peut aussi avoir, à chaque moment, ce souvenir de Bethel présent, parce que la parole est là, et on la garde dans nos cœurs et dans notre bouche. Et donc, essayons d'avoir ces mémorials pour nous. Essayons de nous souvenir dans nos vies faites de haut et de bas de ces moments particuliers de vie en communion avec Dieu. Voilà, donc c'était la première partie de cette vie assez particulière de Jacob, mais qui, j'espère, vous aura parlé aussi de nos vies à nous, et de notre besoin de nous rappeler des moments particuliers de bénédiction, parce que nous aussi, nous avons cette vie pleine de sinuosités.